Hommage à Monkey Island.
Me voilà parvenu dans l'antre secret du terrible capitaine pirate mort-vivant, le Chuck. Enfin, je saurai quel est le secret du Monkey Island.
Guybrush, t'es fou. Te voilà pris dans mon piège.
Attention, derrière toi, un singe à trois têtes.
Tu m'as fait ce coup-là dans les quatre autres épisodes de la série. Tu ne penses quand même pas me prendre comme un débutant?
Très bien alors, réglons ça à l'épée. En garde!
Sous peu, je vais t'embrocher avec mon épée.
D'abord, arrête de le brandir comme un plumeau.
Aucun adversaire ne m'a jamais résisté.
Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer.
Tu es la créature la plus laide que j'ai jamais rencontrée.
Je suis choqué que tu n'aies jamais bien regardé ta femme.
Tu m'as eu, Guybrush. Tu es trop doué dans les duels d'insultes.
Allez, dis-moi, le Chuck. Quel est le secret de l'île aux singes?
Regarde derrière toi. C'est Hélène Marley.
Mon amour.
Poisson.
En sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez... Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, en ce lundi 20 octobre 2008, tout juste passé 17h, c'est l'heure de votre émission, de votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique et la culture geek, puissance maximale sur les ondes de CKIA. Vincent Langlois au micro, et je suis en compagnie de François Gécouillard.
Salut Vincent.
Salut François, Guillaume Forand.
Salut.
Et également Alexandre Bélanger.
Hey ho!
Alors messieurs, tout juste pour commencer, un petit tour de table pour savoir ce dont vous venez nous parler. Guillaume.
Je vais vous parler d'un jeu qui va sortir très bientôt, même qui va sortir dimanche qui s'en vient, le GH4 ou Guitar Hero World Tour.
Oh yeah, Guitar Hero. De ton côté Alexandre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui je continue mes chroniques sur la musique de jeux vidéo et aujourd'hui j'atteins le paroxysme de ma chronique, c'est-à-dire le Super Nintendo, alors restez à l'écoute.
Excellent. Nous allons aussi rejoindre Fraulein Evil en direct de Montréal, car elle sera en fin de semaine prochaine à Essen pour la grande foire du jeu. Et nous débutons tout de suite l'émission avec Monsieur Mathieu Morin, qui est PDG de l'agence de cyberathlètes Top. Mathieu Morin qui est venu nous voir il y a à peu près un an pour nous parler un peu de l'agence et également d'un événement qu'il avait fait, je crois, au mois de janvier l'année passée. Alors, pour débuter, Mathieu, juste des petites nouvelles de l'agence. Depuis un an maintenant, ça va bien?
Oui, ça va quand même assez bien. J'ai identifié deux sources qu'on a besoin d'aider les pro-gamers, c'est l'entraînement et le financement. Donc, j'ai lancé tout récemment deux divisions à l'intérieur de mon entreprise, qui est Top Levée de Fonds, qui est qui va en quelque sorte essayer de ramasser de l'argent pour financer les voyages de compétition de sport électronique. Puis j'ai aussi lancé Top Esport Academy, qui se trouve à être... j'ai une maison disponible pour organiser des bootcamps d'entraînement intensif avant même des compétitions. Donc, c'est la façon que j'ai trouvée pour aider les cyberathlètes québécois.
Excellent. Est-ce que les cyberathlètes de la région commencent justement à finalement prendre part à différents événements de ce genre-là?
Ouais, ben la scène québécoise n'est pas très développée. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent vraiment percer sur le niveau international. Mais oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Puis les jeunes, d'habitude, ils sont très motivés à vouloir s'entraîner là.
Excellent. Et en fin de compte, tu es ici aujourd'hui avec nous pour parler du eSport Top Qualification, la deuxième édition, en fin de compte, qui va se tenir le 25 et le 26 octobre 2008.
Ouais, ben ça, c'est un projet de mon entreprise. C'est avant le Festival Arcadia, je vais organiser à chaque année une rencontre pour que les gamers puissent compétitionner, essayer de se connaître, essayer de voir c'est qui les plus forts pour les compétitions. Cette année, le Festival Arcadia n'a toujours pas annoncé son jeu officiel pour la Cybercoupe Canada, mais on va organiser un tournoi d'NHL 09 pour essayer de préparer les jeunes qui veulent participer à cette compétition-là.
Excellent. Est-ce qu'il y aura également d'autres jeux en montre?
Oui, je prévois un tournoi de Guitar Hero 3, puis un tournoi de Quake 3 Arena en version 1 versus 1.
D'accord.
Mais dis-moi, Mathieu, là, pour ce qui est justement du concours, là, le eSport Top Qualification, là, est-ce que c'est aussi un peu pour toi, pour faire du repérage, pour trouver des bons joueurs, peut-être?
Oui, exactement. J'aimerais ça recruter des jeunes qui ont beaucoup de talent pour diverses compétitions. Donc, même si vous êtes fort à un jeu, puis il n'y a pas de compétition, vous pouvez quand même venir nous rencontrer, puis... je suis ouvert à rencontrer tous les jeunes qui ont du talent puis qui veulent devenir des pro-gamers.
Donc, quand même, l'année passée, t'en as parlé tout à l'heure, ça a plus ou moins marché l'année passée. Je pense que c'est peut-être à cause du prix d'entrée. Il y avait eu 6 participants, je pense.
Ouais, il y avait vraiment eu pas beaucoup de monde au premier. Puis il faut dire que j'étais vraiment pas connu. Je venais de m'installer à Québec. Personne connaissait vraiment mon entreprise. Puis c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de faire gratuit pour essayer d'avoir le maximum de personnes. Puis c'est vraiment pour que les jeunes viennent se rencontrer puis qu'on discute de qu'est-ce qui se passe côté sport électronique au Québec.
C'est ça, tu viens de le dire, t'es débarqué à Québec l'année passée, tu viens de Montréal en fait, hein, t'es vraiment un nouvel habitant de la capitale.
Ouais, ben je viens de la rive sud de Montréal, puis j'ai fait mes études au HEC à Montréal, donc je suis venu à Québec justement pour essayer la scène de LAN Center est beaucoup plus fort à Québec qu'à Montréal, donc je suis venu m'installer ici pour lancer mon entreprise.
Ouais, justement, parlant un peu justement de la scène, tu parles des LAN Center, tu dis que c'est plus fort à Québec?
Ouais, ben à Montréal, il y a vraiment pas beaucoup de LAN Center, puis à Québec, il y a le Dream City, il y en a quelques autres que je nommerai pas parce que je suis affilié avec le Dream City.
Qu'on salue d'ailleurs.
Donc le Dream City qui est situé, pour les gens qui ne le savent pas, sur les terrains...
tout proche de la pyramide de Sainte-Foy.
D'accord, ouais. Et ça sera là qu'aura lieu le prochain événement?
Exactement. D'accord. Et tous mes événements risquent d'avoir lieu au Dream City. C'est vraiment une des meilleures places à Québec pour le pro-gaming.
OK. Puis sinon, c'est à quel jeu qu'on va jouer? T'en as parlé tout à l'heure, il va y avoir un tournoi de Guitar Hero, tout ça. Mais c'est quoi les autres jeux? L'année passée, c'était Dota. Est-ce qu'il va y avoir encore un tournoi de Dota, peut-être?
Il n'y a pas de Dota prévu à l'horaire. J'ai vraiment juste sélectionné 3 jeux pour cette édition-ci. Mais c'est sûr que je suis ouvert pour avoir les commentaires des personnes pour l'édition de l'année suivante.
OK. Et quel prix que les gens vont pouvoir gagner, peut-être?
Ben, j'ai comme commanditaire Binox, donc j'ai 2 jeux Guitar Hero qu'on va faire tirer sur place. Mais le prix aux compétitions, c'est vraiment des passes. J'ai été commandité par le Festival Arcadia, donc j'ai des passes week-end pour le Festival Arcadia à distribuer aux gagnants. Puis je vais en avoir pour des tirages à ceux qui vont venir juste pour participer ou juste pour voir.
Si jamais il y a des gens intéressés, parce qu'on sait qu'au niveau du jeu, du gaming, on peut s'intéresser aux jeux de console, aux jeux d'ordinateur, est-ce que c'est vraiment là des jeux qui seront joués sur PC, sur cette fin de semaine-là?
Ben, le seul jeu sur PC, c'est Quake 3 Arena. D'accord. Je l'ai fait en fonction qu'il y a un jeu Quake Live qui va sortir, qui va être offert gratuitement par ID Software. Puis j'ai vraiment espoir que sur la scène internationale de sport électronique, vu que c'est un jeu gratuit, ouvert à tous, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui va être populaire dans les années à venir. Ça devrait sortir d'ici à Noël, donc Quake 3, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est pas... c'est un jeu qui date de 1998, donc tout le monde peut jouer.
Un bon vieux jeu, mais qui est encore up-to-date, disons, au niveau du gaming.
Côté compétitif, il est très fort.
C'est ça. Donc, je comprends bien, pour ce qui est d'NHL et de Guitar Hero, ça se fera avec une console.
Exactement, sur Xbox 360.
D'accord. Okay.
Sinon, Mathieu, toi, t'es le PDG de la cyber, de l'agence de cyberathlète top. Mais ton but, c'est de trouver des bons joueurs et tout ça. Je sais que tu nous as référé à Charles Bellefleur, à Marc-André Fourglory, Messier. Donc, je me demandais si tu avais spoté d'autres d'autres futurs talents, peut-être du cyber gaming.
Ben présentement, j'ai pas vraiment de poulain que je pourrais dire qui a des grandes chances de l'emporter sur des grandes compétitions internationales. Même Charles Bellefleur a récemment lâché Hello pour se tourner vers un autre jeu. Fait vraiment, ça change vraiment constamment dans le pro gaming. On peut malheureusement pas essayer de prévoir à l'avance.
Ben oui, tu parlais de l'équipe là, qui a gagné le World Cyber Games là, qui s'est déjà disloqué. Là.
Ouais, ben ça c'est une drôle d'histoire qui est arrivée, mais c'est quand même très bien côté sport électronique. On a 5 Québécois qui vont représenter le Canada en Allemagne à la finale mondiale des World Cyber Games. Puis le prix pour un tournoi comme ça, ils ont gagné la qualification nationale, donc Samsung leur paye le voyage en Allemagne, tout compris hébergement, nourriture. Puis, ils ont la chance de gagner plus de 50 000 $ s'ils arrivent premiers. Mais présentement, l'équipe s'est divisée en 2 autres équipes, donc il va y avoir une grosse compétition dans les prochains LAN entre les 2 factions de No Pression.
Mais là, dis-nous, Mathieu, nous autres, on s'intéresse aux potins. Là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette gang-là? Là? C'est quoi? Il y en a un qui a pogné la blonde de l'autre? Ben quoi?
Ah non, c'est simplement quand on gagne une compétition de sport électronique, on se fait souvent recruter par des équipes plus fortes. Ou je pense que c'est simplement ça qui est arrivé. Il y a 3 joueurs qui se sont fait recruter pour former une nouvelle équipe. Puis ils vont continuer sous un autre nom avec un nouveau roster, c'est tout.
Tout simplement une histoire professionnelle.
C'est rough,
c'est le succès qui est arrivé là.
OK. Ben c'est surprenant quand même la compétition, c'est que dans le fond il y a vraiment une compagnie qui est arrivée et il a dit écoute on pourrait te faire plus d'argent, viens avec nous autres, tu sais, c'est vraiment.
Ben j'ai pas tous les détails de comment ils se sont fait recruter, mais c'est à peu près ça.
J'imagine que ça doit quand même être assez présent dans ce business là.
Mais normalement ce qui arrive c'est que les 2 équipes en finale merge ensemble pour former la meilleure équipe. Là ce qui est arrivé c'est quelque chose de différent, c'est l'équipe qui a gagné la finale et s'est divisée en 2 équipes.
C'est qui va représenter le Canada en Allemagne?
Ah c'est toujours ceux qui ont gagné à la coupe, c'est No Pression. Okay. Sauf qu'ils pratiquent plus, malheureusement ils pratiquent plus ensemble, puis ça peut mener un peu leur chance de remporter la victoire parce qu'il y avait 2 mois pour s'entraîner intensivement, puis malheureusement ben, ils s'entraînent plus ensemble.
Bon, ben c'est plate. Mais sinon, Mathieu, peut-être il est au Québec, au Canada en particulier là, on en parlait d'ailleurs avec Romain là la semaine passée ou il y a 2 semaines. Le cyber gaming, c'est pas encore reconnu, c'est pas encore très connu. Les gens, quand on leur parle de cyber gaming, ils vont souvent faire des drôles de grimaces là. Qu'est-ce qui t'arrive peut-être à dire aux gens qui croient pas encore au cyber gaming?
Ben moi, je trouve qu'il y a un énorme travail politique à faire. Donc, comme tout sport, faut que ça soit réglementé. Mais comme si on regarde l'exemple de la Chine, en 2005, le gouvernement chinois a vraiment annoncé officiellement que le sport électronique est un sport en part entière. Ils ont organisé en démonstration aux Jeux olympiques. Personne n'en a entendu parler, mais il y avait quand même le sport électronique aux Olympiques de Beijing.
C'est vrai.
Mais en fin de compte aussi, c'est j'imagine qu'il faut aussi avoir des commanditaires qui vont croire en ça. Est-ce que c'est facile au Québec d'en recruter qui ne sont peut-être pas nécessairement liés au monde du jeu?
Ben présentement, c'est vraiment juste les compagnies qui ont un intérêt dans le pro gaming qui commanditent. Puis moi j'entrevois que dans le futur, n'importe quelle compagnie qui aurait un avantage à être présent pour les jeunes de 14 à 25 ans pourrait commanditer des équipes de sport électronique.
Parce qu'on pense aux compagnies, par exemple, de bière là, qui commanditent les équipes sportives ou quoi que ce soit. Pourquoi pas une compagnie comme Pepsi ou Coca-Cola, même si ce n'est pas bon pour la santé, pourquoi pas investir un peu d'argent là-dedans?
Il y a l'équipe Amp Energy, qui est une boisson énergisante qui a formé une équipe.
Oui, mais c'est un exemple parmi peut-être peu également, vrai. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi de ce côté-là, qui pourrait peut-être les encourager.
Les compagnies d'Energy Drink, justement, vu que les gamers en utilisent beaucoup pendant les compétitions, ou juste quand ils jouent comme ça pour le plaisir. Donc, ces compagnies-là sont quand même assez présentes, mais c'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui arrivent à se faire commanditer. Puis encore là, c'est un peu paradoxal parce que pour arriver au sommet des compétitions, faut avoir un soutien financier. Puis c'est vraiment juste une fois qu'on arrive au sommet qu'ils obtiennent le financement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire.
Bien, merci beaucoup, Mathieu, d'être passé à l'émission.
Merci, moi qui vous
remercie. Donc, on rappelle que le eSport Top Qualification est du 25 au 26 octobre au Dream City.
On aurait peut-être juste Alexandre qui aurait une question. Avant, juste en terminant, Alexandre, oui.
Oui, c'est une grosse question, malheureusement, mais bon, gars, je vais la poser. Toi-même, est-ce que t'as été un pro-gamer et est-ce que t'as bâti toi-même le la façon d'entraîner tes poulains?
Non, moi, j'ai jamais... Je suis la génération juste un petit peu trop vieille pour avoir peur à ces compétitions-là. Quand j'étais jeune, je jouais juste pour le plaisir. J'ai déjà pris part à quelques petites compétitions, mais c'était vraiment rien d'organisé. Là, on parle d'il y a 10 ans, donc... Puis en terminant, je voudrais juste remercier mes partenaires pour l'événement, donc Dream City, le Festival Arcadia, Binox, et bien sûr Puissance Maximale, qui est la meilleure radio pour le pro-gaming au Québec.
Et voilà, le message est lancé. Alors, merci beaucoup, Mathieu, d'être passé parmi nous. Et on va passer en musique tout de suite, François?
Oui, donc, c'est vraiment pour plus d'informations, topca.ca. Hein? Merci, Mathieu.
Merci beaucoup.
Donc, on va aller écouter une pièce de Musax, donc musax.info, notre ami français. Donc, c'est une pièce tirée de la trame sonore de Baldur's Gate, musax.info avec un Z et un X.
Après le succès de Baldur's Gate, BioWare développe le deuxième volet de la série. Sorti en l'an 2000 sur PC, le jeu offre de nombreuses améliorations, ce qui lui vaut d'être considéré comme un des meilleurs RPG de l'époque.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Toujours sur les ondes de CKIA, nous sommes maintenant en compagnie d'Alexandre Bélanger avec sa chronique musique.
Oui, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Et je continue, c'est la troisième. Oui, bonjour à tous.
Et voilà.
Très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est la troisième chronique d'une longue série qui s'annonce de musique de jeux vidéo. Et bon, on avait commencé par le Commodore 64 il y a un bout de temps, le Nintendo 8-bit, et aujourd'hui, on atteint le plat de résistance, le Super Nintendo. Personnellement, c'est vraiment mon pic musical du jeu vidéo.
Est-ce que c'est ton pic console aussi? Parce que c'était quand même quelque chose...
Oui, oui. Vous vous souvenez à l'époque, en 92, 91, il y avait le Genesis, le méchant Genesis de Sega qui sévissait sur le marché.
Une manette à 3 boutons. Écoute, ça venait faire la concurrence à celle à 2.
C'est vrai, c'est vrai. Et Genesis a vraiment bousculé le Nintendo 8-bit à l'époque. Mais Nintendo devait réagir et ils ont sorti la console Super Nintendo à peu près à la même époque. Et un des avantages indéniables que cette console-là possédait sous sa boîte, c'était la superbe puce bâtie en collaboration avec Sony. Et je vois François qui a actuellement des problèmes avec mon lecteur. Alors, PC Play, le bouton à droite,
Le problème, c'est qu'effectivement, il est sur play.
OK, le volume au milieu, tu glisses. Et on va entendre.
Et voilà, nous sommes en direct, mesdames et messieurs.
Hey! On va entendre de la musique de ce
volume, mais c'est la magie de la technologie.
Et oui, voilà.
Et la magie du direct.
Et donc, Nintendo est arrivé avec son Super Nintendo, et dedans la console, il y avait une arme secrète conçue par Sony. Sony, vous connaissez tous Sony.
Et oui.
La grosse compagnie. Et justement, il y aura des suites dans l'histoire du jeu vidéo avec l'histoire dans la collaboration entre Sony et Nintendo. Mais pour le moment, je ne veux qu'aborder la notion de la puce spéciale de musique qu'ils ont intégrée. Il s'agit de la puce SPC-700. Et c'est la première puce qui permettait des orchestrations véritables. 8 couches de son pour un ensemble de 16 bits. Là, je veux pas rentrer dans les détails techniques. De toute façon, je connais pas vraiment l'électronique à fond. Mais c'est pour dire que c'est une puce qui traite 8 sons en même temps, qui donnait vraiment un rendu orchestral riche et qui permettait enfin de toucher à plusieurs styles de toutes sortes de façons. Vous vous souvenez de l'époque, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis au Super Nintendo. Il y en a eu à peu près 800 en Amérique du Nord. Vraiment, là, une bonne trollée de jeux. Et il y a eu de nombreux classiques, et dans ces classiques-là, beaucoup de la valeur de ces jeux-là provenait de la musique comme telle, dont Final Fantasy, qui est un exemple là, très, 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 très connu, mais la musique de ces jeux-là donnait vraiment une qualité émotionnelle.
Oui, je me souviens justement d'un des Final Fantasy, je pense que c'était le 3, où est-ce qu'il y avait une passe d'opéra, où est-ce qu'on entendait la fille qui chantait, et c'était mémorable, je me souviens dans le temps, c'était... Quand j'ai entendu ce bout-là, j'étais, ben, ça se peut pas, c'est de la qualité, c'est, même des fois, je réécoutais, j'avais une sauvegarde, puis je repassais juste ce bout-là parce que c'était bon.
Tu es resté dans la mémoire de bien des gens qui ont joué à Final Fantasy, cette passe-là du...
L'opéra. Oui, oui. Ça, c'est un classique dans le... C'est d'ailleurs le chef-d'œuvre de Nobuo Uematsu, le compositeur de Final Fantasy VI, et de tous les Final Fantasy jusqu'au 11 ou 12. C'est un grand compositeur réputé au Japon, qui a fait vraiment du génie. À mon avis, à mon humble avis, c'était du grand génie musical qui a passé au travers Final Fantasy, et dont l'audacieuse épisode de l'opéra, où on acquérait enfin le vaisseau pour voler et parcourir le monde. C'est à travers l'opéra, une histoire d'amour qui a été reprise de nombreuses fois dans des albums classiques, dans des reconstitutions là, classiques avec des vrais orchestres au Japon. Là, aujourd'hui, je me tiens vraiment à la puce SPC-700, ou avec les sons électroniques, comme on peut entendre en arrière. Oui, tout le monde, on danse.
C'est déjà fait.
On entend un peu de Castlevania présentement. Et ça, c'est un autre des jeux qui a généré une bagatelle de trames sonores, Final Fantasy, Castlevania. Ce sont les classiques. Et si ça vous intéresse d'en connaître plus, moi je vous conseille de taper .spc sur Internet, sur Google, pour trouver des fichiers de type SPC. Ce sont les impulse tracks, là, excusez-moi du terme.
C'est le format pour la musique 8 bits, sans
doute. La puce de Sony s'appelait SPC-700. Ah, okay. Et les premiers crinqués, les premiers hackers qui ont été chercher les pièces dans les mémoires des cartouches, parce qu'à l'époque c'était dans des cartouches, ont intitulé ça SPC. Faut que je rappelle, ça c'est une autre petite parenthèse, c'est que les compositeurs-là, de l'époque, étaient vraiment contraints par des taux de compression gros. Ils devaient vraiment, vraiment faire le moins de place possible. Il n'y avait pas de wave, il n'y avait pas de longues pièces de musique comme c'est venu après avec le CD-ROM. On fonctionnait sur cartouche. Et donc, ils étaient contraints à chacun de leurs mouvements, à chacune de leurs décisions musicales. Ils devaient vraiment se restreindre à choisir des sons compatible avec la puce. Et selon moi, c'est une des raisons pourquoi la musique est si bonne et si recherchée, c'est qu'ils étaient contraints à un petit éventail d'instruments de musique petit relativement. Là, on peut parler des 16-30 000, mais en comparaison avec le PlayStation, qui, d'après moi, a donné beaucoup moins bonne musique en comparaison avec le Super NES, parce que là, moi, je suis vraiment dans mon terrain, j'écoute ça le soir avant de me coucher, etc. Un geek oblige.
On fait tous ça d'ailleurs.
Mais c'est ce qui est quand même assez impressionnant de voir que dans une puce de cette sorte-là, tout ce qu'ils ont pu développer avec tous les sons, tous les thèmes qu'ils ont pu développer, travailler avec si peu d'espace que ça, c'est de la magie quasiment.
Mm. Moi, ça vient me chercher de cette façon-là. Comme de quoi de intouchable, de mystérieux presque. On comprend pas comment ça peut être aussi bon que ça. Ouais. Mais peut-être faut avoir joué. Je sais pas s'il faut vraiment avoir joué au jeu pour capter la musique, l'essence de la beauté de la musique. Mais il faudrait que je demande à des gens qui ont pas joué et qui seraient ouverts à l'électronique. Mais moi, personnellement, j'ai joué. Donc, peut-être ça m'aide.
Ouais, c'est ça. Toujours un petit débréconçu, si on veut.
Une nostalgie aussi. Ouais. Alors, c'est pas mal ce qui conclut. Je vais sûrement revenir les autres semaines avec des jeux plus précis. Peut-être dans le Super NES, peut-être aborder plus le Super NES. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière là-dedans. Et une dernière mention. Cette type de musique-là, ce Super NES, grâce aux orchestrations nouvelles, on a pu toucher à tous les styles de musique classique, rock, metal, techno, new wave, exotique, samba, latin, la tabla des hindous, tout y a passé. Donc, pour terminer, il y a une pièce en présentation pour vous, mesdames et messieurs, une excellente pièce qui vient du jeu Final Fantasy Mystic Quest, qui est un jeu conçu pour les enfants, un RPG. On sait tous ce que ça veut dire, RPG, ici présent.
Ou un JDR en français, jeu de rôle.
JDR, oui, JDR, conçu pour les enfants, disons, beaucoup plus simple qu'un Final Fantasy habituel. Et la musique était vraiment metal, rock.
Ah oui?
Donc, la bonne musique. Et voici la chanson de bataille, celle qu'on écoutait des milliers et des milliers de fois en jouant. Voici la musique à puissance maximale. Laisse là-dessus et à bientôt.
Ciao. Merci beaucoup, bye.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute puissance maximale.
Toujours sur les ondes de Sequoia, nous sommes maintenant en compagnie de Guillaume Forand. Salut Guillaume.
Salut Vincent, ça va bien?
Très bien Guillaume. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ce fameux jeu très attendu de musique qui s'appelle
Guitar Hero World Tour ou GH4.
L'arrivée des autres instruments. Que c'est pas seulement une guitare, mais il y a aussi un set de batterie.
Un set de batterie, on va pouvoir chanter. Donc, la compagnie a repris le même principe que Rock Band a pris, donc de rajouter des instruments. Ils ont pris leur moteur, leur engin de musique et ont rajouté des instruments, ont apporté des nouveautés, comme Rock Band aussi a apporté des nouveautés par rapport à Guitar Hero. Avec Rock Band 2, ont apporté de nouveautés. Les deux compagnies se relancent beaucoup. On a encore quelques années de relance entre les deux compagnies, les deux jeux qui sont très bons, chacun leur façon. Mais Guitar Hero World Tour, c'est un jeu que plusieurs attendent. Plusieurs ont pris Rock Band en attendant que ce jeu-là sorte, mais c'est un gros jeu qui s'en vient très vite.
En fait, contre la compagnie qui fait Rock Band était la compagnie qui avait fait Guitar Hero à l'époque, au départ.
C'est ça.
Et c'était un arrivé à Rock Band après. C'est certain que Rock Band, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, parce que c'est arrivé, bon, pour le temps des fêtes l'année passée. Et enfin, on pouvait jouer 3-4 en même temps avec des instruments, puis même qu'en fin de semaine, j'ai eu la chance de jouer au Rock Band 2, qui est sorti sur le PS3 en fin de semaine, mais qui était déjà sorti sur le Xbox 360 un mois avant, et encore très très bon. C'est impressionnant de jouer à Rock Band et de pouvoir importer maintenant les sons, les musiques du premier CD, par exemple sur la PS3, j'imagine que c'est la même chose sur le Xbox, mais très impressionnant parce que ce qui était, on va y aller après ça avec Guitar Hero, mais juste pour mentionner, ce qui était au Rock Band quand on avait commencé, ce qui était peut-être moins intéressant, c'est qu'on jouait presque tout le temps les mêmes chansons. Au fur et à mesure que le jeu avançait, on était en groupe, puis bon, on faisait un set de 3 chansons et on revenait avec les mêmes qu'on avait joué auparavant. Tandis que là, quand on fait des sets de 3 chansons ou 4 chansons, il va les chercher parmi toutes les chansons qu'on a déjà, c'est du ça. Rock Band 1 et du Rock Band 2. Donc ça a été vraiment intéressant pour le Rock Band 2. J'ai vraiment apprécié le jeu avec lequel j'ai joué en fin de semaine. Pour ce qui est Guitar Hero,
bon, il y a première des choses, ils sortent les 3 consoles en même temps. Donc déjà là, en partant, c'est un gros plus pour le jeu comparé à Rock Band qui n'a pas sorti sur toutes les consoles en même temps. Donc, qu'est-ce qui a fait que certains gens n'ont pas été chercher nécessairement le jeu puisqu'il n'était pas sorti sur leur console et qu'il y avait d'autres versions qui venaient plus tard. Comme dans Rock Band, Guitar Hero 4 va avoir la guitare, il va avoir la bass, donc le bass qui est la base.
Qui est une autre guitare également.
Une autre guitare, il va avoir la batterie et il va avoir le micro pour faire le vocal. Il y a quelques nouveautés dans leur système qui rentrent. Première des choses, la batterie va avoir, on pourrait dire, 6 tambours pour jouer dessus. Ben, pas 6 tambours. Il y a 5 tambours plus la pédale. Un de plus que celui de Rock Band. Donc, on a 3 tambours principaux et 2 cymbales qui sont surélevés. Qu'est-ce qui est impressionnant de la batterie? Première des choses, ils ont eu 2 batteurs de groupe de musique qui sont venus pour tester, voir si ça allait bien, dont celui des Red Hot Chili Peppers et de Blink 182, qui sont venus tester, et même celui des Red Hot Chili Peppers a, pendant une pratique, fait une de leurs chansons, il l'a fait les yeux fermés, pour justement comparer comment que c'était proche d'une vraie batterie, et il a fait une bonne partie de la chanson, les yeux fermés, parce qu'il savait les notes, puis le beat était bon. Donc déjà là, c'est assez impressionnant.
C'est impressionnant parce que tout simplement, je veux dire, tu joues à Rock Band, le comparatif, disons, puis même si tu joues les yeux fermés, je veux dire, c'est pas... On sait la cymbale est de quel côté, on sait le tom est de quel côté, la caisse claire, mais je ne pense pas que ça soit programmé nécessairement comme une batterie, puis dire qu'on peut le faire les yeux fermés, malgré qu'au niveau de Rock Band, les bons batteurs de groupe l'avaient essayé également. Ils disaient que aussitôt qu'on était au niveau expert, ça s'apparentait beaucoup plus à ce que c'était de jouer de la batterie que même si eux, ils l'essayaient au niveau débutant. C'était vraiment difficile pour eux seulement faire le débutant parce qu'ils sont habitués de piocher tellement sur différentes parties de la batterie.
Puis d'ailleurs, parenthèse comme ça, mais tout le monde en parle, il y avait Alice Cooper là, qui était là, il parlait justement de Guitar Hero, il disait qu'il était poche.
Il disait lui-même qu'il était poche, puis il s'est même posé la question, alors pourquoi les jeunes ne sont pas plus intéressés à jouer de la vraie musique?
Je me dis, Guitar Hero va peut-être encourager les jeunes gens à aller faire de la vraie musique.
Oui, effectivement, depuis que ce jeu-là est sorti, ils ont remarqué une augmentation dans les gens qui suivent des cours de musique à la guitare et même à la batterie. Il y a des statistiques qui le prouvent que depuis ces jeux-là sont sortis.
Ah ouais.
Puis les jeunes aussi, ils s'en vont dans les magasins de musique puis disent « J'ai aimé ça, jouer à ces jeux-là, c'était le fun. Je veux apprendre à jouer de la vraie guitare. » Donc, ça a quand même suscité un intérêt pour la musique qui était moins présent avant. Et là, qui n'a pas joué à ce jeu-là, c'est tellement populaire. Si on l'a pas nous-mêmes, on connaît quelqu'un qui a joué, puis c'est le fun d'aller jouer. Mmh. Aussi, la guitare. La guitare à Rock Band, la guitare de Rock Band, elle a les 5 boutons en haut, elle a 5 petits boutons plus bas pour faire les solos. Cela, sur Guitar Hero 4, au lieu d'avoir 5 boutons plus bas, 5 notes, c'est un touchpad. Donc, vraiment une plaque à pression. Pour faire les solos, on a juste à glisser les doigts.
Ah, c'est intéressant ça.
Donc déjà là, ça se rapproche un petit peu plus d'une guitare où est-ce qu'on voit les musiciens qui bougent les doigts, que ça monte puis ça descend. Par contre, ça s'applique pas pour toutes les notes, mais pour les bouts de solo, vraiment où est-ce qu'on est juste le guitariste, ça va être une possibilité de pouvoir jouer comme ça. Donc déjà là, on se rapproche de plus en plus d'une guitare avec les petites options supplémentaires. D'autres choses intéressantes dans le jeu, ils ont rajouté un 5e niveau de difficulté, qui est okay. Un niveau, dans le fond, pour débutants.
Aïe, aïe, c'est incroyable. Mais c'est pour débutants.
Pour débutants. Dans le fond, c'est qu'on n'est pas obligé de faire les vraies notes. Il faut juste faire n'importe quelle note quand il indique à l'écran. C'est pas obligé d'être la vraie note. Okay. C'est pour les gens qui sont moins bons, mais qui veulent faire ça, ou les plus jeunes qui veulent jouer en même temps que leurs parents. Exemple,
plutôt les parents qui veulent jouer en même temps que leur enfant.
Ouais. Ma tante Germaine et mon oncle Ramon. Là.
Donc, ça donne une possibilité de pouvoir jouer tout en étant plus facile et pouvoir apprécier quand même. Donc, c'est moins de notes, c'est n'importe quelle note, mais c'est un petit plus qu'on rajoute déjà à un jeu qui est déjà intéressant pour les gens qui commencent. Comme mes parents, je leur ai fait essayer l'année passée. Ils ont aimé ça, mais ils trouvaient ça dur un peu, même à juste à 3 notes. Donc, ça peut être quelque chose pour habituer les gens, puis peut-être éventuellement qu'ils vont augmenter le niveau de difficulté, puisque l'apprentissage est beaucoup plus facile à ce moment-là, déjà là en partant. À part de ça, il y a plusieurs choses intéressantes. Premièrement, la Wii, on va pouvoir télécharger de la musique pour.
Enfin, parce que ce qui était sur Guitar Hero le dernier, qui en fin de compte n'était jamais trouvable, à toutes les fois qu'il y avait un Guitar Hero qui arrivait sur Wii, c'était toujours vendu automatiquement ou presque automatiquement. Et en comparaison avec ce qu'il y avait sur la PS3 ou ce qu'il y avait sur la Xbox, on pouvait télécharger sur ces deux consoles-là. Sur la Wii, il n'y avait aucun contenu téléchargeable au niveau de Guitar Hero. Donc, oui, c'était intéressant, mais pour toutes les chansons qui étaient ajoutées, impossible de le faire.
C'est ça. Maintenant, ça va être possible. En partant, on va pouvoir télécharger de la musique. Entre autres, l'album de Metallica, le dernier qui est sorti, Death Magnetic. On va pouvoir le télécharger au complet pour pouvoir jouer sur le Guitar Hero. Donc, déjà là, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Déjà disponible sur les autres consoles présentement pour le Guitar Hero 3.
Il a été conçu pour Guitar Hero 3 et compatible avec Guitar Hero 4, justement, prévu à l'avance pour, qui est, même ceux-là qui ont déjà écouté les chansons du nouvel album, il y a des bonnes pièces, et on écoute la guitare et la batterie, et on se dit, ouf, ça me semble que ça va être le fun.
Au niveau de la compression des sons, là, plusieurs des commentaires des gens disent que ce qui est sorti sur les consoles est meilleur que ce qu'il y a sur l'album. Ah, les sons sortent encore mieux sur les consoles. Le gros, ben, en tout cas, c'est ce qui avait été dit par bien des gens. Au niveau des commentaires, on va sur Internet, on lit ça, c'est à peu près ce qu'ils disent.
Donc, on voit déjà là que ce type de jeu-là, avec les années, a tellement évolué, la qualité augmente et d'année en année, on va se rapprocher de plus en plus proche des instruments, qu'est-ce qui est très intéressant. C'est sûr, certains, il y a toujours plus d'autres affaires qui sont sorties avec des options supplémentaires qui sont intéressantes, mais moi, pour clore la chronique, il y a quelques titres de les 86 chansons qui sont dans le jeu, qui la liste officielle est sortie. Il y a quelques titres, on pourrait dire des classiques de la musique.
Qui t'ont accroché.
En réalité, je vous dirais que 80% des chansons annoncées m'ont accroché, mais il y en a quelques-uns que, dès que j'ai vu, qui ont sorti, j'ai fait « Ah, c'est là-dedans, c'est pas croyable ». Première des choses, toutes les chansons, c'est des master tracks. Donc, c'est les chansons originales enregistrées par les groupes. Il n'y a pas de cover de fait. C'est tout des master tracks. Donc,
dans les premiers temps, c'était justement des covers. C'est donc, As Made Famous By, c'était ça qui était indiqué. Mais c'est vrai qu'au fil des années, on commence à prendre les vraies chansons.
Ils se rendent compte que ça les rend plus populaires.
Mm-hmm. Donc, et ça fait, il y a beaucoup d'argent qui rentre aussi dans les caisses.
C'est ça. Donc, les groupes, ils commencent à s'associer c'est avec. Quelques titres intéressants. Il y a About a Girl de Nirvana, la version Unplugged.
Ben oui.
Donc, déjà là, c'est un petit classique de 1994. Une vieille chanson de 1982 de Michael Jackson, Beat It. Donc déjà là, les gens se remémorent des vieux chansons de Michael Jackson.
Des très bons classiques de Michael Jackson, mais des vieux souvenirs avec Michael Jackson.
Aussi.
Des mauvais souvenirs.
Ozzy Osbourne, Crazy Train. Une autre vieille chanson que beaucoup de gens connaissent et même des gens ne connaissent pas nécessairement le nom de la chanson, mais si on leur fait écouter, ils vont savoir c'est quoi.
C'est vrai.
Survivor, il n'y a pas grand gens qui connaissent le nom du groupe, mais c'est eux qui ont fait
Eye of the Tiger,
une des chansons de Rocky que tout le monde connaît. Donc un bon vieux classique.
Déjà disponible sur Rock Band également parce que je l'ai joué hier et c'était quelque chose, je veux vous dire, j'ai pioché sur le drum.
Les Eagles avec Hotel California. Déjà là, on regarde ça, on dit ça, on peut pas passer à côté. La Bamba, ça fait bizarre de voir ça dans un jeu comme ça, mais quand on commence à penser la chanson puis les instruments, ça va être quelque chose d'intéressant. Du Bon Jovi, il y a tout plein de groupes, il y en a vraiment plusieurs, et du Jimi Hendrix avec Purple Haze, la version live.
Oh, mais c'est excellent. Alors,
plein de choses très intéressantes à venir à partir de dimanche.
Ben, j'ai bien hâte de jouer à ça. Merci beaucoup, Guillaume, d'être passé. Et on va, juste avant dans la musique, juste pour vous indiquer qu'il y a un concours pour gagner un jeu aujourd'hui. Et le jeu, François, sera...
Donc, le jeu sera la Cosa Nostra de Synergeux, donc une bande de jeunes fous de Montréal qui nous ont envoyé leur jeu, la Cosa Nostra, un jeu de mafia. Donc, vous n'avez qu'à composer
le numéro. Le numéro de téléphone qui est le 418-529-9026, 418-529-9026.
Et vous aurez ce jeu gratuitement si vous êtes membre de Sequoia, si vous réussissez à répondre à la question suivante. Combien y a-t-il de lettres dans CKIA?
Très difficile.
Sinon, ben, on va aller en pièce musicale.
Tout à fait.
Donc, ça va être le donjon de Nelbeuk. Et c'est une pièce de bataille dans une taverne. Vous êtes à puissance maximale.
Massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes.
Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger par-ci.
En formation, tous les archers, vous visez un orc au choix. Si vous arrivez à le toucher, faudra courir un peu
vite ça.
Et les elfes à gauche massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est les balivernes.
Yeah! Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule d'un quatre et je lui mets un coup de pied. Ha ha!
Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez deux fois, sautez sur place.
Les orques à droite et les elfes à gauche massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des palivernes.
Alors, c'est fini?
Non! Reste en elfe, encore vivant, attrapez-le, perd les cheveux, coupez-lui les jambes, c'est marrant, ça court moins vite et c'est tant mieux.
En sautant sur vos boucliers, vous surfez dans les flaques de sang, foncez sur tous les rescapés,
vous s'écriez en les comptant.
Votre seigneur des ténèbres, vous êtes à l'écoute de puissance maximale.
Sur les ondes de CKIA, et parlant du seigneur des ténèbres ou de la seigneur, seigneuresse des ténèbres, elle est en ligne présentement, Fraulein Evil.
Bonjour!
Bonjour, et on a l'honneur aujourd'hui de parler à quelqu'un qui participera en fin de semaine à la foire du jeu de Essen.
Oui, enfin, une fois par année, Fraulein Evil retourne au pays. Alors, on parle de la foire de jeux de Essen, qui est la plus grosse foire de jeux au monde. Et quand je dis au monde, c'est pour vrai. C'est une foire qui est ouverte au public. On attend environ 148 000 visiteurs. Alors ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Et il y a des centaines de journalistes de la radio, de la télé, de la presse écrite. On parle d'à peu près 760 à 800 exposants d'à peu près une trentaine de pays. Et le hall d'exposition lui-même est absolument énorme. On parle de 44 000 mètres carrés d'exhibition space, n'est-ce pas, de surface d'exhibition. C'est immense. Et d'ailleurs, votre Frolen Evil National se perd plusieurs fois par jour.
Est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est plusieurs types de jeux qui sont discutés là-bas, qui sont présentés, ou on parle seulement de jeux de table et de jeux de plateau?
On parle particulièrement du jeu de société, mais quand on parle de jeu de société, tout y est. On peut trouver autant du jeu de plateau du genre Monopoly, des jeux de questions, des jeux pour enfants, des jeux de dextérité, des jeux de cartes à collectionner. C'est vraiment la force du jeu, c'est n'importe quoi. En fait, c'est l'occasion annuelle pour tous les producteurs européens et même américains et canadiens et même québécois, d'essayer de percer de nouveaux marchés, de se trouver des distributeurs outre-mer. Donc, c'est vraiment tout y est. C'est l'embarras du choix. Et il y a aussi beaucoup d'activités organisées, des grandeurs nature, des combats avec des figurines, un picomino géant, des villas paletti géants. Les gens, vraiment, s'arrachent le public. Et l'animation, il est vraiment extrême.
Dis-moi, Chantal, cette année, c'est quoi les jeux qui risquent de retirer l'attention?
Ben en fait, c'est difficile à dire parce que la fameuse liste des nouveautés d'ASN qui est postée à chaque année, juste un petit peu avant le salon, va être mise en ligne seulement demain à 11h du matin. Mais quand même, Frolen Evil a ses plugs. Donc cette année, on attend une nouveauté de Emmanuel Ormella qui nous avait offert El Principe et Ultramare. Alors, on parle de Bizan qui a été imprimé par Amigo. Il faut absolument que je parle de Grimpe de Christian Lemay qui est sur la liste de nouveautés affichées. Donc, Grimpe du Scorpion Masqué, notre Christian Lemay national qui sera à SN pour essayer de vendre son jeu à un éditeur outre-mer. On lui souhaite bonne chance, déjà que son jetegage a été édité par Cocktail Games, sous le nom de Bluff Party. On lui souhaite de faire un doublé. Ensuite, il y aura une nouvelle extension de Carcassonne, bien sûr. Carcassonne, la catapulte. Pour enfin sortir un peu de l'hermétisme de ce jeu, on pourra maintenant détruire des villes et des fortifications des autres joueurs. Donc, évidemment, moi, ça m'emballe.
Chantal, qui est une grande amatrice de la destruction massive. Mais sinon, en dehors de Christian Lemay avec son Grimpe, c'est quoi les autres? Est-ce qu'il y a d'autres créateurs québécois qui vont se rendre à SN?
Créateurs québécois, bien sûr, on parle de Éric de Joubec. Son nom de famille m'échappe. Un blanc de mémoire de la mort. Donc, on parle de
Éric Raymond.
Arouet-Noranda. Tout le monde connaît Éric de Joubec. Alors, Éric, lui, avait créé un jeu qui s'appelle Moose Booze, qui a été édité cette année par les éditions Boom, par les jouets Boom, et qui a très, très bien marché lors de sa première sortie ici au Québec. Alors, Éric sera sur place avec un prototype de Moose Booze pour essayer de vendre le concept à un éditeur outre-mer. On lui souhaite bonne chance. Je suis certaine qu'il va avoir un Allemand qui va embarquer dans le délire, c'est sûr et certain. Autre délégation québécoise, évidemment, Philosophia sera présent en présentant des nouveaux jeux comme Québec 508, la nouvelle édition de Chinatown, Dominion, la version française et toute une panoplie de nouveaux jeux, sans oublier évidemment Pandémie, n'est-ce pas, qui est très, 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 très attendue ici au Québec. La version anglaise avait fait un tabac énorme. Et les gens sont très impatients d'y jouer en français.
Et dis-moi, Frolen Evil, là, Chantal Campagna, tu vas y aller en tant que représentante du Valet de cœur. Toi-même, as-tu quelque chose à présenter là-bas ou t'as peut-être quelque chose que tu recherches en particulier à SN?
En fait, l'équipe de distribution Le Valet, de la boutique Le Valet de cœur. Nous, en fait, on est toujours à l'affût des nouveautés, des jeux qui peuvent être le fun, des petits éditeurs qui ont de la difficulté à se faire distribuer ici, évidemment. Mais c'est surtout d'essayer de trouver l'item qui est inédit, le jeu qui va accrocher. Mais en fait, au-delà de la visite professionnelle, on se fait toujours emporter par le jeu, par vraiment l'atmosphère là-bas, c'est vraiment, c'est extraordinaire et on se ramasse à jouer et jouer et jouer et jouer sans arrêt. Donc, et c'est plus quand on revient qu'on fait le ménage. Mais oui, c'est sûr qu'on est toujours à l'affût et personnellement, moi j'ai toujours des listes de certains clients qui me demandent de regarder tel jeu et tel jeu pour eux, pour leur donner des comptes rendus. Donc je suis l'ambassadrice des joueurs qui me font confiance pour leur apporter des résultats, telle est ma mission.
Et dis-moi, est-ce que notre mascotte nationale jaune-jaune, poulet sympathique et alcoolique sera présent?
Jaune-Jaune ne manquerait pas le voyage pour toutes les poulettes du monde. Ses valises sont prêtes, il est déjà prêt pour l'aventure. L'année passée, Jaune-Jaune avait fait tout un malheur. Il avait d'ailleurs fait plusieurs concours de boissons contre des créateurs connus comme Bruno Catala, Philippe de Palière. Et les avait tous battus à plate couture. Il est prêt encore cette année. Il a continué son entraînement intensif. Et cette année, c'est Martin Wallace qui l'a dans la mire.
C'est sûr que c'est facile de gagner des concours de beuverie quand on est un poulet en plastique avec un trou dedans.
Ah. Et voilà. Et la rumeur court à l'effet que Jaune-Jaune passerait les 6 heures du vol aux toilettes. Alors, on verra à ce moment-là si ce qui arrivera avec Chantal. Merci beaucoup, Chantal. Et on te souhaite un beau séjour à SN du 23 au 26 octobre.
Merci beaucoup.
Et on attendra tes nouvelles dans 2 semaines pour voir ce qui s'est passé sur le terrain.
Il n'y a pas de problème. Bonne fin de journée.
Merci beaucoup. Alors François, on passe en musique juste avant la fin de l'émission.
Donc on va écouter une pièce instrumentale du Reverb Syndicate, donc un groupe de rockabilly canadien. Vous êtes à puissance maximale sur les ondes à l'antenne de CKIA. Ça devrait démarrer bientôt. Et voilà.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Alors, le temps de terminer l'émission avec l'agenda de la semaine. De ton côté, François, qu'est-ce que tu as comme événement?
Donc, toutes les semaines, à tous les mardis, au Café Aga, on peut jouer à des jeux de Go, donc à partir de 19h. Sinon, à tous les mardis maintenant, il y a des tournois de hockey sur la Wii à la Ninkasi, le bar sur la rue Saint-Jean. Sinon, à la librairie Donjon à Québec, Magic les jeudis et vendredis, Warhammer Fantasy Battle les 40 000 le mercredi et samedi, Yu-Gi-Oh! Dimanche. Sinon, le 24 au 26 octobre, ça va être le GN, la dernière alliance. Et à Montréal, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Il va y avoir une fin de semaine très chargée bientôt. Du 8 au 9 novembre, ça va être la fiesta ludique de philosophie avec des jeux de plateau partout. Sinon, aussi la même fin de semaine, du 7 au 9 novembre, ça va être le Festival du jeu vidéo Arcadia, toujours à Montréal. Et sinon, ben après l'émission, on se dirige vers l'Abraham Martin, restaurant l'Abraham Martin, et on joue à des jeux de plateau.
Et est-ce que tu as mentionné la Fiesta ludique dans... Oui, c'est ça, la Fiesta ludique qui sera dans quelques semaines.
8 au 9 novembre.
Si vous êtes intéressé pour à écouter de nouveau l'émission, vous pouvez le faire sur des sites internet, le www.puissancemaximale.com qui est notre site internet, mais vous pouvez également le faire sur petitpeuple.fr. Juste le temps de remercier les participants à l'émission d'aujourd'hui. Alors, Mathieu Morin, qui était le PDG de l'agence Stop des cyberathlètes. Également, un merci à Alexandre Bélanger, Guillaume Forand également, Fraulein Evil qui était là. Et merci à toi, François, merci pour la mise en onde. Et ça me fait plaisir. Le temps de vous dire, de vous souhaiter une bonne fin de soirée et une bonne semaine, parce que tout de suite après, c'est l'émission Homologue qui suit. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a...